Chapitre 3. Voici donc le futilénier hasard qui décida de la vie de cette jeune fille. Modeste vit à l'étalage d'un libraire le portrait lithographié d'un de ses favoris de Canalis. Vous savez combien sont menteuses ces esquisses, le fruit de hideuses spéculations qui s'en prennent dans la personne des gens célèbres comme si leur visage était des propriétés publiques. Or Canalis, crayonné dans une pose assez byronienne, offrait à l'admiration publique ses cheveux en coup de vent, son cou nu, le front démesuré que tout barde doit avoir. Le front de Victor Hugo fera raser autant de crânes que la gloire de Napoléon a fait tuer de maréchaux en herbe. Cette figure, sublime par nécessité mercantile, frappa Modeste et, le jour où elle acheta ce portrait, l'un des plus beaux livres de D'Arthès venait de paraître. Du Modeste y perdre, il faut avouer qu'elle hésita longtemps entre l'illustre poète et l'illustre prosateur. Mais ces deux hommes célèbres étaient-ils libres? Modeste commença par s'assurer la coopération de François Scochet, la fille emmenée du Havre et ramenée par la pauvre Bettina Caroline, que Madame Mignon et Madame Dumais prenaient en journée préférablement à tous autres, et qui demeurait au Havre. Elle emmena dans sa chambre cette créature assez disgraciée. Elle lui jura de ne jamais donner le moindre chagrin à ses parents, de ne jamais sortir des bornes imposées à une jeune fille. Et quant à Françoise, plus tard, au retour de son père, elle lui assurait une existence tranquille, à la condition de garder un secret inviolable sur le service réclamé. Qu'était-ce ou peu de choses, une chose innocente? Tout ce que Modeste exigea de sa complice consistait à mettre des lettres à la poste et à en retirer qui seraient adressées à François Scochet. Le pacte conclu, Modeste écrivit une petite lettre polie à Doronia, l'éditeur des poésies de Canalis, par laquelle il lui demandait, dans l'intérêt du grand poète, si Canalis était marié. Puis elle le priait d'adresser la réponse à Mademoiselle Françoise, poste restante au Havre. Doria, incapable de prendre cette épître au sérieux, répondit par des railleries de libraire une lettre faite entre 5 ou 6 journalistes dans son cabinet et où chacun d'eux mit son mot. Mademoiselle, Canalis baron de Constance Sire Melchior, membre de l'Académie française, né en 1800 à Canalis, Corrèze, taille de 5 pieds 4 pouces, en très bon état, vacciné de race pure, insatisfait à la conscription, jouit d'une santé parfaite, possède une petite terre patrimoniale dans la Corrèze et désire se marier, mais très richement. Il porte mi-partie de gueule à la doigt d'or et mi-partie de sable à coquille d'argent, sommet d'une couronne de baron pour support de mélèzes de sinople. La devise, or et fer, ne fut jamais aurifère. Le premier Canalis, qui partit pour la Terre Sainte à la première croisade, est cité dans les chroniques d'Auvergne pour s'être armé seulement d'une hache, à cause de la complète indigence où il se trouvait et qui pèse depuis ce temps sur sa race. De là l'écusson sans doute. La hache n'a donné qu'une coquille. Ce haut baron est d'ailleurs célèbre aujourd'hui pour avoir déconfit force infidèle et mourut à Jérusalem, sans or ni fer, nu comme un ver, sur la route d'Avalon, des ambulances n'existant pas encore. Le château de Canalis, qui rapporte quelques châtaignes, consiste en 2 tours démantelées, réunies par un pont de muraille remarquable, par un lierre admirable, et paye 22 francs de contribution. L'éditeur sous-signé fait observer qu'il achète 10 000 francs chaque volume de poésie à M. de Canalis, qui ne donne pas ses coquilles. Le chantre de la Corrèze demeure rue de Paradis Poissonnière, numéro 29, ce qui, pour un poète de l'école angélique, est un quartier convenable. Les vers attirent les goujons. à franchir. Quelques dames nobles du faubourg Saint-Germain prennent, dit-on, souvent le chemin du paradis et protègent le Dieu. Le roi Charles X considère ce grand poète au point de le croire capable de devenir administrateur. Il l'a nommé récemment officier de la Légion d'honneur et, ce qui vaut mieux, maître des requêtes attaché au ministère des Affaires étrangères. Ces fonctions n'empêchent nullement le grand homme de toucher une pension de 3 000 francs sur les fonds destinés à l'encouragement des arts et des lettres. Ce succès d'argent cause en librairie une 8e plaie à laquelle a échappé l'Égypte, les vers. La dernière édition des œuvres de Canalis, publiée sur Cavalier Velin, avec des vignettes par Bixiou, Joseph Bridau, Schinner, Sommervieux, etc., imprimée par Didot, est en 5 volumes du prix de 9 francs par la poste. Cette lettre tomba comme un pavé sur une tulipe. Un poète, maître des requêtes, émargeant au ministère, touchant une pension, poursuivant la rosette rouge, adulé par les femmes du faubourg Saint-Germain, ressemblait-il au poète crotté, flânant sur les quais, triste rêveur, succombant au travail et remontant à sa mansarde chargée de poésie? Néanmoins, Modeste devina la raillerie du libraire envieux qui disait « J'ai fait Canalis, j'ai fait Nathan ». D'ailleurs, elle relut les poésies de Canalis, vers excessivement pipeur, plein d'hypocrisie, et qui veulent un mot d'analyse, ne fût-ce que pour expliquer son engouement. Canalis se distingue de Lamartine, le chef de l'école angélique, par un patelinage de garde-malade, par une douceur traîtresse, par une correction délicieuse. Si le chef au cri sublime est un aigle, Canalis, blanc et rose, est comme un flamand. En lui, les femmes voient l'ami qui leur manque, un confident discret, leur interprète, un être qui les comprend et qui peut les expliquer à elles-mêmes. Les grandes marges laissées par Doria dans la dernière édition étaient chargées d'aveux écrits au crayon par Modeste, qui sympathisait avec cette âme rêveuse et tendre. Canalis ne possède pas le don de vie. Il n'insuffle pas l'existence à ses créations, mais il sait calmer les souffrances vagues comme celle qui assaillait Modeste. Il parle aux jeunes filles hors langage, il endort la douleur des blessures les plus saignantes en apaisant les gémissements et jusqu'aux sanglots. Son talent ne consiste pas à faire de beaux discours aux malades, à leur donner le remède aux émotions des émotions fortes. Il se contente de leur dire d'une voix harmonieuse à laquelle on croit « Je suis malheureux comme vous, je vous comprends bien, venez à moi. » Pleurons ensemble sur le bord de ce ruisseau, sous les saules. Et l'on va, et l'on écoute sa poésie vide et sonore, comme le chant par lequel les nourrices endorment les enfants. Canalis, comme Nodi, et en ceci, vous ensorcelle par une naïveté naturelle chez le prosateur et cherchée chez Canalis, par sa finesse, par son sourire, par ses fleurs effeuillées, par une philosophie enfantine. Il singe assez bien le langage des premiers jours pour vous ramener dans la prairie des illusions. On est impitoyable avec les aigles, on leur veut les qualités du diamant, une perfection incorruptible. Mais avec Canalis, on se contente du petit sou de l'orphelin, on lui passe tout. Il semble bon enfant, humain surtout. Ses grimaces de poète angélique lui réussissent, comme réussiront toujours celles de la femme qui fait bien l'ingénue, la surprise, la jeune, la victime, l'ange blessé. Modeste, en reprenant ses impressions, eut confiance en cette âme, en cette physionomie aussi ravissante que celle de Bernardin de Saint-Pierre. Elle n'écouta pas le libraire. Donc, au commencement du mois d'août, elle écrivit la lettre suivante à ce nouveau Dora, qui passe encore pour une des étoiles de la Pléiade moderne. À Monsieur de Canalis. Déjà bien des fois, monsieur, j'ai voulu vous écrire et pourquoi. Vous le devinez, pour vous dire combien j'aime votre talent. Oui, j'éprouve le besoin de vous exprimer l'admiration d'une pauvre fille de province, seule dans son coin, et dont tout le bonheur est de lire vos poésies. De René, je suis venu à vous. La mélancolie conduit à la rêverie. Combien d'autres femmes ne vous ont-elles pas envoyé l'hommage de leurs pensées secrètes? Quelle est ma chance d'être distinguée dans cette foule? Qu'est-ce que ce papier plein de mon âme aura de plus que toutes les lettres parfumées qui vous harcèlent? Je me présente avec plus d'ennui que tout autre. Je veux rester inconnu et demande une confiance entière, comme si vous me connaissiez depuis longtemps. Répondez-moi, soyez bon pour moi. Je ne prends pas l'engagement de me faire connaître un jour. Cependant, je ne dis pas absolument non. Que puis-je ajouter à cette lettre? Voyez-y, monsieur, un grand effort, et permettez-moi de vous tendre la main, oh, une main bien amie, celle de votre servante, O. Deste M. Si vous me faites la grâce de me répondre, adressez, je vous prie, votre lettre à Mademoiselle F. Cochet, poste restante au Havre. Maintenant, toutes les jeunes filles, madame romanesques ou non, peuvent imaginer dans quelle impatience vécut Modeste pendant quelques jours. L'air fut plein de langues de feu, les arbres lui parurent un plumage. Elle ne sentit pas son corps, elle plana dans la nature. La terre fléchissait sous ses pieds. Admirant l'institution de la poste, elle suivit sa petite feuille de papier dans l'espace et elle se sentit heureuse comme on est heureux à 20 ans du premier exercice de son vouloir. Elle était occupée, possédée, comme au Moyen-Âge. Elle se figura l'appartement, le cabinet du poète, elle le vit décachetant sa lettre, et elle faisait des suppositions par myriades. Après avoir esquissé la poésie, il est nécessaire de donner ici le profil du poète. Canalis est un petit homme sec, de tournure aristocratique, brun, doué d'une figure vituline, et d'une tête un peu menue, comme celle des hommes qui ont plus de vanité que d'orgueil. Il aime le luxe, l'éclat, la grandeur. La fortune est un besoin pour lui plus que pour tout autre. Fier de sa noblesse autant que de son talent, il a tué ses ancêtres par trop de prétentions dans le présent. Après tout, les Canalis ne sont ni les Navarreins, ni les Cadignaux, ni les Grandlieu, ni les Nègrepelisse. Et cependant, la nature a bien servi ses prétentions. Il a ses yeux d'un éclat original, oriental, qu'on demande au poète, une finesse assez jolie dans les manières, une voix vibrante, mais un charlatanisme naturel détruit presque tous ses avantages. Il est comédien de bonne foi. S'il avance un pied très élégant, il en a pris l'habitude. S'il a des formules déclamatoires, elles sont à lui. S'il se pose dramatiquement, il a fait de son maintien une seconde nature. Ces espèces de défauts concordent à une générosité constante, à ce qu'il faut nommer le paladinage en contraste avec la chevalerie. Canalis n'a pas assez de foi pour être Don Quichotte, mais il a trop d'élévation pour ne pas toujours se mettre dans le beau côté des questions. Cette poésie, qui fait ses éruptions miliaires à tout propos, nuit beaucoup à ce poète qui ne manque pas d'ailleurs d'esprit, mais que son talent empêche de déployer son esprit. Il est dominé par sa réputation, il vise à paraître plus grand qu'elle. Ainsi, ou comme il arrive très souvent, l'homme est en désaccord complet avec les produits de sa pensée. Ses morceaux câlins, naïfs, pleins de tendresse, ses vers calmes, purs comme la glace des lacs, cette caressante poésie formelle a pour auteur un petit ambitieux, serré dans son frac, à tournure de diplomate, rêvant une influence politique, aristocrate empué, musqué, prétentieux, ayant soif d'une fortune afin de posséder la rente nécessaire à son ambition, déjà gâtée par le succès sous sa double forme, la couronne de laurier et la couronne de myrte. Une place de 8 000 francs, 3 000 francs de pension, les 2 000 francs de l'académie, et les 1 000 écus du revenu patrimonial, écornés par les nécessités agronomiques de la terre de Canalis, au total 15 000 francs de fixe, plus les 10 000 francs que rapportait la poésie, bon an, mal an, en tout 25 000 livres. Pour le héros de Modeste, cette somme constituait alors une fortune, d'autant plus précaire qu'il dépensait environ 5 ou 6 000 francs au-delà de ses revenus. Mais la cassette du roi, les fonds secrets du ministère, avaient jusqu'alors comblé ses déficits. Il avait trouvé pour le sacre un hymne qui lui valut un service d'argenterie. Il refusa toute espèce de somme en disant que les canalistes devaient leur hommage au roi de France. Le roi chevalier sourit et commanda chez Odiot une coûteuse édition des vers de Zahir. « Ah, versificateur, te serais-tu flatté d'effacer Charles X en générosité ?» Dès cette époque, Canalis avait, selon la pittoresque expression des journalistes, vidé son sac. Il se sentait incapable d'inventer une nouvelle forme de poésie. Sa lyre ne possède pas 7 cordes, elle n'en a qu'une, et à force d'en avoir joué, le public ne lui laissait plus que l'alternative de s'en servir à se perdre ou à se taire. De Marsay, ou qui n'aimait pas Canalis, se permit une plaisanterie qui laissa dans le flanc du poète sa pointe envenimée. « Canalis, dit-il une fois, me fait l'effet de l'homme le plus courageux, signalé par le grand Frédéric après la bataille, ce trompette qui n'avait cessé de souffler le même air dans son petit hurlututu. » Canalis, aux oreilles de qui cet épigramme arriva, voulut devenir général. Combien de fois un mot n'a-t-il pas décidé de la vie d'un homme? L'ancien président de la République cisalpine, le plus grand avocat du Piémont, Colla, s'entend dire à 40 ans par un ami qui ne connaît rien à la botanique. Il se pique, devient un Jussieu, cultive les fleurs, en invente et publie la flore du Piémont en latin, l'ouvrage de 10 ans. Après tout, Canning et Chateaubriand sont des hommes politiques, se dit le poète éteint, et De Marsay trouvera son maître en moi. Canalis aurait bien voulu faire un grand ouvrage politique, mais il craignit de se compromettre avec la prose française, dont les exigences sont cruelles à ceux qui contractent l'habitude de prendre 4 alexandrins pour exprimer une idée. De tous les poètes de ce temps, 3 seulement, Hugo, Théophile Gautier et De Vigny, ont pu réunir la double gloire de poète et de prosateur que réunirent aussi Racine et Voltaire, Molière et Rabelais, une des plus rares distinctions de la littérature française et qui doit signaler un poète entre tous. Donc le poète du faubourg Saint-Germain faisait sagement en essayant de remiser son char sous le toit protecteur de l'administration. En devenant maître des requêtes, Canalis éprouva le besoin d'avoir un secrétaire, un ami qui put le remplacer en beaucoup d'occasions, faire sa cuisine en librairie, avoir soin de sa gloire dans les journaux, et au besoin, l'aider en politique, enfin être enfin son âme damnée. Beaucoup d'hommes célèbres dans les sciences et dans les arts, dans les lettres, ont à Paris 1 ou 2 caudataires, un capitaine des gardes ou un chambellan, qui vivent au rayon de leur soleil, espèce d'aide de camp chargée des missions délicates, se laissant compromettre au besoin, travaillant au piédestal de l'idole, ni tout à fait ses serviteurs, ni tout à fait ses égaux, hardis à la réclame, les premiers sur la brèche, couvrant les retraites, s'occupant des affaires, et dévoués tant que durent leurs illusions ou jusqu'au moment où leurs désirs sont comblés. Quelques-uns reconnaissent un peu d'ingratitude chez leur grand homme, d'autres se croient exploités, plusieurs se lassent de ce métier. Peu se contentent de cette douce égalité de sentiments, le seul prix que l'on doive chercher dans l'intimité d'un homme supérieur et dont se contentait Ali, élevé par Mahomet jusqu'à lui. Beaucoup se tiennent pour aussi capables que leur grand homme, abusés par leur amour-propre. Le dévouement est rare, surtout sans solde, sans espérance, comme le concevait Modeste. Néanmoins, il se trouve des Menneval, et plus à Paris que partout ailleurs, des hommes qui chérissent une vie à l'ombre, un travail tranquille, des bénédictins égarés dans notre société, sans monastère pour eux. Ces agneaux courageux portent dans leurs actions, dans leur vie intime, la poésie que les écrivains expriment. Ils sont poètes par le cœur, par leur méditation à l'écart, par la tendresse, comme d'autres sont poètes sur le papier, dans les champs de l'intelligence et à tant de vers, comme Lord Byron, comme tous ceux qui vivent, hélas, de leur encore encre, l'eau d'Hippocrène d'aujourd'hui, par la faute du pouvoir. Attiré par la gloire de Canalis, par l'avenir promis à cette prétendue intelligence politique et conseillé par Madame d'Espard, un jeune référendaire à la Cour des comptes se constitua le secrétaire bénévole du poète et fut caressé par lui comme un spéculateur caresse son premier bailleur de fonds. Les prémices de cette camaraderie eurent assez de ressemblance avec l'amitié. Ce jeune homme avait déjà fait un stage de ce genre auprès d'un des ministres tombés en 1827, mais le ministre avait eu soin de le placer à la Cour des comptes. Ernest de la Brière, jeune homme alors âgé de 27 ans, décoré de la Légion d'honneur, sans autre fortune que les émoluments de sa place, possédait la triture des affaires et savait beaucoup après avoir habité pendant 4 ans le cabinet du principal ministère. Doux, aimable, le cœur presque pudique et rempli de bons sentiments, il lui répugnait d'être sur le premier plan. Il aimait son pays, il voulait être utile, mais l'éclat l'éblouissait. À son choix, la place de secrétaire près de Napoléon lui eut mieux convenu que celle de premier ministre. Ernest, devenu l'ami de Canalis, fit de grands travaux pour lui. Mais en 18 mois, il reconnut la sécheresse de cette nature si poétique par l'expression littéraire seulement. La vérité de ce proverbe populaire « l'habit ne fait pas le moine » est surtout applicable à la littérature. Il est extrêmement rare de trouver un accord entre le talent et le caractère. Les facultés ne sont pas le résumé de l'homme. Cette séparation dont les phénomènes étonnent provient d'un mystère inexploré, peut-être inexplorable. Le cerveau s'est produit en tout genre, car dans les arts, la main de l'homme continue sa cervelle, sont un monde à part qui fleurit sous le crâne dans une indépendance parfaite des sentiments, de ce qu'on nomme les vertus du citoyen, du père de famille, de l'homme privé. Ceci n'est cependant pas absolu. Rien n'est absolu dans l'homme. Il est certain que le débauché dissipera son talent, que le buveur le dépensera dans ses libations, sans que l'homme vertueux puisse se donner du talent par une honnête hygiène. Mais il est aussi presque prouvé que Virgile, le peintre de l'amour, n'a jamais aimé de Didon, et que Rousseau, le citoyen modèle, avait de l'orgueil à défrayer toute une aristocratie. Néanmoins, Michel-Ange et Raphaël ont offert l'heureux accord du génie de la forme et du caractère. Le talent chez les hommes est donc à peu près, quant au moral, ce que la beauté chez les femmes, une promesse. Admirons 2 fois l'homme chez qui le cœur et le caractère égalent en perfection le talent. En trouvant sous le poète un égoïste ambitieux, la pire espèce de tous les égoïstes, car il en est d'aimable, Ernest éprouva je ne sais quelle pudeur à le quitter. Les âmes honnêtes ne brisent pas facilement leurs liens, surtout ceux qu'ils ont noués volontairement. Le secrétaire faisait donc bon ménage avec le poète, quand la lettre de Modeste courait la poste. Mais comme on fait bon ménage, en se sacrifiant toujours. La Brière tenait compte à Canalis de la franchise avec laquelle il s'était ouvert à lui. D'ailleurs, chez cet homme, qui sera tenu grand pendant sa vie, qui sera fêté comme le fut Marmontel, les défauts sont l'envers de qualités brillantes. Ainsi, dans sa vanité, sans sa vanité, sans sa prétention, peut-être n'eût-il pas été doué de cette diction sonore, instrument nécessaire à la vie politique actuelle. Sa sécheresse aboutit à la rectitude, à la loyauté. Son ostentation est doublée de générosité. Les résultats profitent à la société, les motifs regardent Dieu. Mais lorsque la lettre de Modeste arriva, Ernest ne s'abusait plus sur Canalis. Les deux amis venaient de déjeuner et causaient dans le cabinet du poète, qui occupait alors au fond d'une cour un appartement donnant sur un jardin au rez-de-chaussée. « Oh !» s'écria Canalis, « je le disais bien l'autre jour à Madame de Chaulieu. Je dois lâcher quelques nouveaux poèmes, l'admiration baisse, car voilà quelque temps que je n'ai reçu de lettres anonymes. » « Une inconnue ?» demanda la Bruyère. « Une inconnue, une Est et au Havre, c'est évidemment un nom d'emprunt. » Et Canalis passa la lettre à la Bruyère. Ce poème, cette exaltation cachée, enfin le cœur de Modeste, fut insouciamment tendu par un geste de fat à ce petit référendaire de la Cour des comptes. « C'est beau !» s'écria le référendaire, « d'attirer ainsi à soi les sentiments des plus pudiques, de forcer une pauvre femme à sortir des habitudes que l'éducation, la nature et le monde lui tracent, à briser les conventions. » Quel privilège Eugénie acquiert! Oh, une lettre comme celle que je tiens, écrite par une jeune fille, une vraie jeune fille, sans arrière-pensée, avec enthousiasme. Eh bien, dit Canalis, eh bien, on peut avoir souffert autant que le Tasse, on doit être récompensé, s'écria la Bruyère. Oh, se dit cela, mon cher, à la première, à la seconde lettre, dit Canalis, mais quand c'est la 30e? Mais lorsqu'on a trouvé que la jeune enthousiaste est assez rouée, mais quand au bout du chemin, un brillant, parcouru par l'exaltation du poète, on a vu quelques vieilles anglaises assises sur une borne et qui vous tend la main. Mais quand l'âge de la poste se change vite en une pauvre fille médiocrement jolie en quête d'un mari, oh, alors, l'effervescence se calme. Je commence à croire, dit la Bruyère en souriant, que la gloire ait quelque chose de vénéneux, comme certaines fleurs éclatantes. Et puis, mon ami, reprit Canalis, toutes ces femmes, même quand elles sont sincères, elles ont un idéal, et vous y répondez rarement. Elles ne se disent pas que le poète est un homme assez vaniteux, comme je suis taxé de l'être. Elles n'imaginent jamais ce qu'est un homme malmené par une espèce d'agitation fébrile qui le rend désagréable, changeant. Elles le veulent toujours grand, toujours beau. Jamais elles ne pensent que le talent est une maladie, que Nathan vit avec Florine, qu'Artès est trop gras, que Béranger va très bien à pied, que le dieu peut avoir la pituite. Un Lucien de Rubempré, poète et joli garçon, est un phénix. Et pourquoi donc aller chercher de méchants compliments et recevoir les douches froides que verse le regard hébété d'une femme désillusionnée? Et le vrai poète, dit la Bruyère, doit alors rester caché comme Dieu dans le centre de ses mondes, n'être visible que par ses créations. La gloire coûterait trop cher, alors, répondit Canalis. La vie a du bon. Tiens, dit-il en prenant une tasse de thé, quand une noble et belle femme aime un poète, elle ne se cache ni dans les cintres ni dans les baignoires du théâtre, comme une duchesse s'éprise d'un acteur. Elle se sent assez forte, assez gardée par sa beauté, par sa fortune, par son nom, pour dire, comme dans tous les poèmes épiques, « Je suis la nymphe Calypso, amante de Télémaque. La mystification est la ressource des petits esprits. Oh, depuis quelque temps, je ne réponds plus au masque. » Oh, combien j'aimerais une femme venue à moi, s'écria la Bruyère en retenant une larme. On peut te répondre, mon cher Canalis, que ce n'est jamais une pauvre fille qui monte jusqu'à l'homme célèbre. Elle a trop de défiance, trop de vanité, trop de crainte. C'est toujours une étoile, une princesse, s'écria Canalis, en partant d'un éclat de rire, n'est-ce pas, qui descend jusqu'à lui. Mon cher, cela se voit une fois en 100 ans. Un tel amour est comme cette fleur qui fleurit dans nos siècles. Les princesses jeunes, riches et belles, sont trop occupées, elles sont entourées comme toutes les plantes rares, d'une haie de sots de gentilshommes bien élevés, vides comme des sureaux. Mon rêve, hélas, le cristal de mon rêve, brodé de la Corrèze, ici de guirlandes de fleurs. Dans quelle ferveur, oh, n'en parlons plus, il est en éclats à ses pieds depuis longtemps. Non, toute lettre anonyme est une mendiante. Et quelles exigences! Écris à cette petite personne, en supposant qu'elle soit jeune et jolie, et tu verras. Tu n'auras pas autre chose à faire. On ne peut pas raisonnablement aimer toutes les femmes. Apollon, celui du belvédère du moins, est un élégant poitrinaire qui doit se ménager. Mais quand une créature arrive ainsi, son excuse doit être dans une certitude d'éclipser en tendresse, en beauté, la maîtresse la plus adorée, dit Ernest. Et alors un peu de curiosité. Oh, répondit Canalis, tu me permettras, trop jeune Ernest, de m'en tenir à la belle duchesse qui fait mon bonheur. Tu as raison, trop raison, répondit Ernest. Néanmoins, le jeune secrétaire lut la lettre de Modeste et la relut en essayant d'en deviner l'esprit caché. Il n'y a pourtant pas là la moindre emphase. On ne te donne pas du génie, on s'adresse à ton cœur, dit-il à Canalis. C'est parfait de modestie, ce contrat proposé me tenterait. Ah ben, signe-le, réponds, va toi-même jusqu'au bout de l'aventure. Je te donne là de tristes appointements, s'écria Canalis en souriant. Va, tu m'en diras des nouvelles dans 3 mois, si cela dure 3 mois. 4 jours après, Modeste tenait la lettre suivante, écrite sur du beau papier, protégée par une double enveloppe et sous un cachet aux armes de Canalis. À Mademoiselle Odeste M. Mademoiselle, l'admiration pour les belles œuvres, à supposer que les miennes soient telles, comporte je ne sais quoi de saint et de candide qui défend contre toute raillerie et justifie à tout tribunal la démarche que vous avez faite en m'écrivant. Avant tout, je dois vous remercier du plaisir que causent toujours de semblables témoignages, même quand on ne les mérite pas, car le faiseur de vers et le poète s'en croient intimement dignes, tant l'amour propre est une substance peu réfractaire à l'éloge. La meilleure preuve d'amitié que je puisse donner à votre inconnu, en échange de ce dictum qui guérirait les morsures de la critique, n'est-ce pas de partager avec elle la moisson de mon expérience, au risque de faire envoler vos vivantes illusions. Mademoiselle est la plus belle palme d'une jeune fille et la fleur d'une vie sainte, pure, irréprochable. Êtes-vous seule au monde? Tout est dit. Mais si vous avez une famille, un père ou une mère, songez à tous les chagrins qui peuvent suivre une lettre comme la vôtre, adressée à un poète que vous ne connaissez pas personnellement. Tous les écrivains ne sont pas des anges, ils ont des défauts. Il en est de légers, d'étourdis, de fades, ambitieux, de débauchés. Et quelque imposante que soit l'innocence, quelque chevaleresque que soit le poète français, à Paris vous pourriez rencontrer plus d'un ménestrel dégénéré, prêt à cultiver votre affection pour la tromper. Votre lettre serait alors interprétée autrement que je ne l'ai fait. On y verrait une pensée que vous n'y avez pas mise et que, dans votre innocence, vous ne soupçonniez point. Autant d'auteurs, autant de caractères. Je suis excessivement flatté que vous m'ayez jugé digne de vous comprendre. Mais si vous étiez tombé sur un talent hypocrite, sur un railleur dont les livres sont mélancoliques et dont la vie est un carnaval continuel, vous auriez pu trouver au dénouement de votre sublime imprudence un méchant homme, quelque habitué des coulisses ou un héros d'estaminet. Vous ne sentez pas, sous les berceaux de clématite où vous méditez sur les poésies, l'odeur du cigare qui dépoétise les manuscrits, de même qu'en allant au bal, paré des œuvres resplendissantes du joaillier, vous ne pensez pas aux bras nerveux, aux ouvriers en veste, aux ignobles ateliers d'où s'élancent radieuses ces fleurs du travail. Allons plus loin. En quoi la vie rêveuse et solitaire que vous menez, sans doute au bord de la mer, peut-elle intéresser un poète dont la mission est de tout deviner puisqu'il doit tout peindre? Nos jeunes filles à nous sont tellement accomplies que nulle des filles d'Ève ne peut lutter avec elles. Quelle réalité vaut jamais le rêve? Maintenant, que gagnerez-vous, vous jeunes filles élevées à devenir une sage mère de famille, en vous initiant aux agitations terribles de la vie des poètes, dans cette affreuse capitale qui ne peut se définir que par ces mots, un enfer qu'on aime. Si c'est le désir d'animer votre monotone existence de jeune fille curieuse qui vous a mis la plume à la main, ceci n'a-t-il pas l'apparence d'une dépravation? Quel sens prêterai-je à votre lettre? Êtes-vous d'une caste réprouvée et cherchez-vous un ami loin de vous? Êtes-vous affligé de laideur et vous sentez-vous une belle âme sans confident? Hélas, triste conclusion! Vous avez fait trop ou pas assez? Ou restons-en là? Ou si vous continuez, dites-moi plus que dans la lettre que vous m'avez écrite. Mais, mademoiselle, si vous êtes jeune, si vous êtes belle, si vous avez une famille, si vous vous sentez au cœur un art céleste à répandre comme fit Madeleine au pied de Jésus, laissez-vous apprécier par un homme digne de vous et devenez ce que doit être toute bonne jeune fille, une excellente femme, une vertueuse mère de famille. Un poète est la plus triste conquête que puisse faire une jeune personne. Il a trop de vanité, trop d'angles blessants qui doivent se heurter aux légitimes vanités d'une femme et meurtrir une tendresse sans expérience de la vie. La femme du poète doit l'aimer pendant un long temps avant de l'épouser. Elle doit se résoudre à la charité des anges, à leur indigence, aux vertus de la maternité. Ces qualités, mademoiselle, ne sont qu'en germe chez les jeunes filles. Écoutez la vérité tout entière. Ne vous la dois-je pas en retour de votre enivrante flatterie? S'il est glorieux d'épouser une grande renommée, on s'aperçoit bientôt qu'un homme supérieur est, en tant qu'homme, semblable aux autres. Il réalise d'autant moins les espérances qu'on attend de lui des prodiges. Il en est alors d'un poète célèbre comme d'une femme dont la beauté trop vantée fait dire « Je la croyais mieux à qui la perçoit. » Elle ne répond plus aux exigences du portrait tracé par la fée à laquelle je dois votre billet, l'imagination. Enfin, les qualités de l'esprit ne se développent et ne fleurissent que dans une sphère invisible. La femme du poète n'en sent plus que les inconvénients. Elle voit fabriquer les bijoux au lieu de s'emparer. Si l'éclair d'une position exceptionnelle vous a fasciné, apprenez que les plaisirs en sont bientôt dévorés. On s'irrite de trouver tant d'aspérité dans une situation qui, à distance, paraissait unie, et tant de froid sur un sommet brillant. Puis, comme les femmes ne mettent jamais les pieds dans le monde des difficultés, elles apprécient bientôt plus ce qu'elles admiraient quand elles croient en avoir à première vue deviné le maniement. Et je termine par une dernière considération dans laquelle vous auriez tort de voir une prière déguisée. Elle est le conseil d'un ami. L'échange des âmes ne peut s'établir qu'entre gens disposés à ne se rien cacher. Vous montrerez-vous tel que vous êtes à un inconnu? Je m'arrête aux conséquences de cette idée. Trouvez ici, mademoiselle, les hommages que nous devons à toutes les femmes, même à celles qui sont inconnues et masquées. Avoir tenu cette lettre entre sa chair et son corset, sous son buste brûlant pendant toute une journée, en avoir réservé la lecture pour l'heure où tout dort, minuit, après avoir attendu ce silence solennel dans les anxiétés d'une imagination de feu, avoir béni le poète, avoir lu par avance 1000 lettres, avoir supposé tout, excepté cette goutte d'eau froide tombant sur les plus vaporeuses formes de la fantaisie et les dissolvant comme l'acide prussique dissout la vie. Il y avait de quoi se cacher, quoique seul, ainsi que le fit Modeste, la figure dans ses draps, éteindre la bougie et pleurer. Ceci se passait dans les premiers jours d'août. Modeste se leva, marcha par sa chambre et vint ouvrir la croisée. Elle voulait de l'air. Le parfum des fleurs monta vers elle, avec cette fraîcheur particulière aux odeurs pendant la nuit. La mer, illuminée par la lune, scintillait comme un miroir. Un rossignol chanta dans un arbre du parc Vilquin. « Ah, voilà le poète !» se dit Modeste dont la colère tomba. Les plus amères réflexions se succédèrent dans son esprit. Elle se sentit piquée au vif. Elle voulut relire la lettre, elle ralluma la bougie, elle étudia cette prose étudiée, et finit par entendre la voix poussive du monde réel. Ben, il a raison et j'ai tort, se dit-elle. Mais comment croire qu'on trouvera sous la robe étoilée des poètes un vieillard de Molière? Quand une femme ou une jeune fille est prise en flagrant délit, elle conçoit une haine profonde contre le témoin, l'auteur ou l'objet de sa faute. Aussi la vraie, la naturelle, la sauvage modeste éprouva-t-elle en son cœur un effroyable désir de l'emporter sur cet esprit de rectitude et le précipiter dans quelques contradictions, de lui rendre ce coup de massue. Cet enfant si pur, dont la tête seule avait été corrompue, et par ses lectures et par la longue agonie de sa sœur, et par les dangereuses méditations de la solitude, fut surprise par un rayon de soleil sur son visage. Elle avait passé 3 heures à courir les bordées aux auberges immenses du doute. De pareilles nuits ne s'oublient jamais. Elle alla droit à sa petite table de la Chine, présent de son père, et écrivit une lettre dictée par l'infernal esprit de vengeance qui frétille au fond du cœur des jeunes personnes. À Monsieur de Canalis. Monsieur, vous êtes certainement un grand poète, mais vous êtes quelque chose de plus, vous êtes un honnête homme. Après avoir eu tant de loyales franchises avec une jeune fille qui côtoyait un abîme, en aurez-vous assez pour répondre sans la moindre hypocrisie, sans détour à la question que voici? Auriez-vous écrit la lettre que je tiens en réponse à la mienne? Vos idées et votre langage auraient-ils été les mêmes si quelqu'un vous eût dit à l'oreille de ce qui peut se trouver vrai « Mademoiselle Odeste M. a 6 millions et ne veut pas d'un sot pour maître » Admettez, pour certaines et pendant un moment, cette supposition. Soyez avec moi comme avec vous-même, ne craignez rien, je suis plus grande que mes 20 ans, rien de ce qui sera franc ne pourra vous nuire dans mon esprit. Quand j'aurai lu cette confidence, si toutefois vous daignez me la faire, vous recevrez alors une réponse à votre première lettre. Après avoir admiré votre talent, si souvent sublime, permettez-moi de rendre hommage à votre délicatesse et à votre probité qui me force à me dire toujours, votre humble servante, Odeste M. Quand Ernest de la Bruyère eut cette lettre entre les mains, il alla se promener sur les boulevards, agité dans son âme comme une fière embarcation par une tempête où le vent parcourt tous les airs du combat du moment en moment. Pour un jeune homme, comme on en rencontre tant, pour un vrai Parisien, tout eût été dit avec cette phrase « C'est une petite rouée !» Mais pour un garçon dont l'âme est noble et belle, cette espèce de serment déféré, cet appel à la vérité, eut la vertu d'éveiller les 3 juges tapis au fond de toutes les consciences, et l'honneur, le vrai, le juste, se dressant en pied, criait énergiquement « Ah, cher Ernest, disait le vrai, tu n'aurais certainement pas abandonné de leçons à cette riche héritière. Ah, mon garçon, tu serais parti et raide pour le Havre, afin de savoir si la jeune fille était belle, et tu te serais senti très malheureux de la préférence accordée au génie. Et si tu avais pu donner un croc en jambe à une amie, te faire agréer à sa place, Mademoiselle d'Est, tu t'étais sublime. Comment, disait le juste, vous vous plaignez, vous autres gens, d'esprit, de capacité, sans monnaie, de voir les filles riches mariées à des êtres dont vous ne feriez pas vos portiers, vous déblatérez contre le positif du siècle qui s'empresse d'unir l'argent à l'argent, et jamais quelque beau jeune homme plein de talent, sans fortune, à quelque belle jeune fille noble et riche. En voilà une qui se révolte contre l'esprit du siècle. » Et le poète lui répond par un coup de bâton sur le cœur. « Riche ou pauvre, jeune ou vieille, belle ou laide, cette fille a raison, elle a de l'esprit, elle roule le poète dans le bourbier de l'intérêt personnel, s'écria l'honneur, elle mérite une réponse sincère, noble et franche, et avant tout l'expression de ta pensée. Examine-toi, sonde ton cœur et purge-le de ses lâchetés. Que dirait l'Alceste de Molière ? Et la Bruyère, partie du boulevard Poissonnière, allait si lentement perdu dans ses réflexions qu'une heure après, il atteignait à peine au boulevard des Capucines. Il prit les quais pour se rendre à la Cour des comptes, alors située auprès de la Sainte-Chapelle. Au lieu de vérifier ses comptes, il resta sous le coup de ses perplexités. « Mais la poche, 6 millions, c'est évident, se disait-il. Mais la question n'est pas là. » 6 jours après, Modeste reçut la lettre suivante. « À Mademoiselle Odeste M. Mademoiselle, vous n'êtes pas une d'Este. Ce nom est un nom emprunté pour cacher le vôtre. Doit-on les révélations vous solliciter à qui ment sur soi-même ? Écoutez, moi, je réponds à votre demande par une autre. Êtes-vous d'une famille illustre, d'une famille noble, d'une famille bourgeoise ? Certainement, la morale ne change pas, elle est une, mais ses obligations varient selon les sphères. De même que le soleil éclaire diversement les sites, y produit les différences que nous admirons, elle conforme le devoir social au rang et aux positions. La peccadille du soldat est un crime chez le général et réciproquement. Les observances ne sont pas les mêmes pour un paysan qui moissonne, pour une ouvrière à 15 sous par jour, pour la fille d'un petit détaillant, pour la jeune bourgeoise, pour l'enfant d'une riche maison de commerce, pour la jeune héritière d'une noble famille, pour une fille de la maison d'Este. Un roi ne doit pas se baisser pour ramasser une pièce d'or. Et le laboureur doit retourner sur ses pas pour retrouver 10 sous perdus, quoique l'un et l'autre doivent obéir aux lois de l'économie. Une d'Este riche de 6 millions peut mettre un chapeau à grand bord et à plumes, brandir sa cravache, presser les flancs d'un barbe et venir annoncer amazonné brodé d'or, suivi de laquais, un poète en disant « J'aime la poésie et je veux expier les torts de Léonore vers le Tasse. » Tandis que la fille d'un négociant se couvrirait de ridicule en l'imitant. À quelle classe sociale appartenez-vous ? Répondez sincèrement, et je vous répondrai de même à la question que vous m'avez posée. N'ayant pas l'heur de vous connaître, et déjà lié par une sorte de communication opinion poétique, je ne voudrais pas vous offrir des hommages vulgaires. C'est déjà peut-être une malice victorieuse que d'embarrasser un homme qui publie des livres. Le référendaire ne manquait pas de cette adresse que peut se permettre un homme d'honneur. Et courrier par courrier, il reçut la réponse. À monsieur de Canalis. Vous êtes de plus en plus raisonnable, mon cher poète. Mon père est comte. Notre principale illustration est un cardinal du temps où les cardinaux marchaient presque les égaux des rois. Aujourd'hui, notre maison quasi tombée finit en moi. Mais j'ai les quartiers voulus pour entrer dans tous les cours et dans tous les chapitres. Nous valons enfin les Canalis. Trouvez bon que je ne vous envoie pas nos armes. Tâchez de répondre aussi sincèrement que je le fais. J'attends votre réponse pour savoir si je pourrais me dire encore, comme maintenant, votre servante Odeste M. Comme elle abuse de ses avantages, la petite personne, s'écria de la Bruyère, mais est-elle franche ? On n'a pas été pendant 4 ans le secrétaire particulier d'un ministre. On n'habite pas Paris, on n'en observe pas les intrigues impunément. Aussi l'âme la plus pure est-elle toujours plus ou moins grisée par la capiteuse atmosphère de cette impériale cité. Heureux de ne pas être Canalis, le jeune référendaire retint une place dans la malle-poste du Havre, après avoir écrit une lettre où il annonçait une réponse pour un jour déterminé, se rejetant sur l'importance de la confession demandée et sur les occupations de son ministre. Il eut le soin de se faire donner par le directeur général des postes un mot qui recommandait silence et obligeance au directeur du Havre. Ernest put ainsi voir venir au bureau Françoise Cochet et la suivit sans affectation. Remarqué par elle, il arriva sur les hauteurs d'Ingouville et aperçut à la fenêtre du chalet Modeste Mignon. « Eh bien, Françoise ?» demanda la jeune fille, à quoi l'ouvrier répondit « Oui, mademoiselle, j'en ai une !» Frappé par cette beauté de blonde céleste, Ernest revint sur ses pas et demanda le nom du propriétaire de ce magnifique séjour à un passant. « Ça ?» répondait le passant en montrant la propriété. « Oui, mon ami. Oh, ça, c'est un monsieur Vilquin, le plus riche armateur du Havre, un homme qui ne connaît pas sa fortune. » « Je ne vois pas de cardinal Vilquin dans l'histoire, » se disait le référendaire en descendant vers le Havre pour retourner à Paris. Naturellement, il questionna le directeur de la poste sur la famille Vilquin. Il apprit que la famille Vilquin possédait une immense fortune. M. Vilquin avait un fils et deux filles, dont une mariée à M. Altor, fils. La prudence empêcha la Bruyère de paraître en vouloir au Vilquin, et le directeur le regardait déjà d'un air narquois. « N'y a-t-il personne en ce moment chez eux ou dans la famille ?» demanda-t-il encore. « Ben, en ce moment, la famille d'Hérouville y est. On parle du mariage du jeune duc avec mademoiselle Vilquin, cadette. »« Ah oui, il y a eu le fameux cardinal d'Hérouville sous les Valois, » se dit la Bruyère, « et sous Henri IV, le terrible maréchal qu'on a fait duc. » Ernest repartit, ayant assez su de Modeste pour en rêver, pour penser que, riche ou pauvre, si elle avait une belle âme, il ferait d'elle assez volontiers Madame de la Bruyère, et il résolut de continuer la correspondance. Essayez donc de rester inconnue, pauvre femme de France, de fier le moindre petit roman au milieu d'une civilisation qui note sur les places publiques l'heure du départ et de l'arrivée des fiacres, qui compte les lettres, qui les timbre doublement au moment précis où elles sont jetées dans les boîtes, et quand elle se distribue, qui numérote les maisons, qui configure sur le rôle matrice des contributions les étages, après en avoir vérifié les ouvertures, qui va bientôt posséder tout son territoire, représenté dans ses dernières parcelles, avec les plus menus linéaments, sur les vastes feuilles du cadastre, œuvre de géant, ordonnée par un géant. Et essayez donc de vous soustraire, filles imprudentes, non pas à l'œil de la police, mais à ce bavardage incessant qui, dans la dernière bourgade, scrute les actions les plus indifférentes, compte les plats de dessert chez le préfet et voit les côtes de melon à la porte du petit dérentier qui lâche d'entendre l'or au moment où la main de l'économie l'ajoute au trésor et qui, tous les soirs, au coin du foyer, estime le chiffre des fortunes du canton, de la ville, du département. Modeste avait échappé par un quiproquo vulgaire au plus innocent des espionnages qu'Ernest se reprochait déjà. Mais quel Parisien voudrait être la dupe d'une petite provinciale ? N'être la dupe de rien, cette affreuse maxime est le dissolvant de tous les nobles sentiments de l'homme. On devinera facilement à quelle lutte de sentiments cet honnête jeune homme fut en proie par la lettre qu'il écrivit et où chaque coup de fléau reçu dans la conscience a laissé sa trace.